Chat perché par Richard Keller, chapitre 8. Après un été particulièrement chaud, les deux collègues vivaient leurs derniers jours ensemble. Sagol attendait son affectation dans un service scientifique de la gendarmerie, où il s'occuperait de formation. Suite à sa réussite au concours d'officier, Gilles irait pendant 18 mois à l'école nationale. Une page de leur vie professionnelle se tournait. Leurs caractères se complétèrent merveilleusement pendant ces années de collaboration. L'imminence de leur départ ne les empêchait pas de travailler, comme à l'accoutumée, avec sérieux et dévouement. En ce lundi 8 septembre, le téléphone sonna. Sagol décrocha. Maître Lincourt, huissier de justice, l'informait qu'il devait inventorier la demeure de feu Mélanie Pralon. Rendez-vous fut pris pour l'après-midi, à 14 h, rue du Carillon. Lorsqu'ils se rendirent sur les lieux, ils se remémorèrent les moments les plus intenses de l'affaire. Ils cachaient mal leur déception. Quittant leur poste sur un échec, les deux hommes, philosophes à leurs heures, en prirent leur parti. Néanmoins, une pointe d'amertume se lisait dans leurs yeux, à l'évocation de l'histoire. Le dossier de la dame au chat ne trouverait pas son dénouement avec eux. Maître Lincourt attendait dans le couloir du rez-de-chaussée car, souffrant d'une maladie congénitale dont la dépigmentation fragilisait sa peau, l'homme chauve craignait le soleil. Après de rapides salutations, l'auxiliaire de justice suivit les gendarmes jusqu'à l'appartement de Mélanie. Les scellés toujours en place, le chef procéda à l'ouverture de la porte. Une couche de poussière uniforme recouvrait le sol et les meubles. Sagol s'adressa à ses compagnons et déclara qu'elle voulait recouvrir au plus vite les mauvais souvenirs. L'huissier nota scrupuleusement la présence de chaque objet. C'était son métier. Gilles se disait que c'était dommage que la collection de livres soit dispersée, car les plus grands penseurs de la planète étaient réunis sur les étagères. Ils assistèrent à de belles joutes orales, la philosophie prenant toujours le dessus pour le mot de la fin. Il répertoria aussi les animaux. Des toiles d'araignées tissées tout autour d'eux donnaient une touche étrange au tableau. Lui, qui n'avait rien dit jusqu'à présent, se lâcha en saisissant un nouveau félin. « C'est trop moche pour finir dans une salle des ventes. Ce sera pour la déchetterie. D'autant que c'est un travail grossier. Aucun taxidermiste ne travaille de cette manière, » rajouta Sagol. L'huissier saisit un autre animal. Gilles lui précisa l'espèce et la spécificité du pelage. Sa visite chez le professeur Lapébie en faisait maintenant un spécialiste. « Oh, regardez, il a perdu une dent !» L'homme de loi désigna un petit morceau jauni tombé sur un guéridon. Gilles se saisit de la dent et l'examina. « Tout faux. Il ne s'agit pas d'une dent. On dirait un grain de riz. L'assassin a dû manger asiatique ce jour-là. » Sagol le scruta à son tour. « Il y a des aspérités. » Il est bizarre, comme si des vers l'avaient croqué en surface. Gilles regarda opérer l'huissier. Ce dernier prit un abyssin. Un grain de riz tomba aussi de sa gueule. Cette fois, je l'ai vu tomber. Il est identique à l'autre. Vous avez raison, il nous faut examiner les autres félins. Sagol mit le grain de riz dans un sachet en plastique. Les trois visiteurs secouèrent délicatement chaque animal empaillé. Ils en récupérèrent 30. Deux chats ne donnèrent rien. Les enquêteurs supposèrent qu'ils étaient tombés lors des manipulations précédentes. Gilles et Sagol cherchèrent à quatre pattes dans l'appartement. Ils durent se rendre à l'évidence. S'il existait 32 grains, deux restaient introuvables. Le chef sortit une loupe de sa mallette. Il essaya de les regarder de plus près, voulant comprendre la raison de leur apparence. Des vers pouvaient les avoir grignotés, ou bien d'autres indices figuraient sur les faces jaunies. Malheureusement, son instrument ne grossissait pas suffisamment. Il ne put distinguer quoi que ce soit. Le mystère restait provisoirement entier. L'huissier continuait sa besogne sans sourciller. Cela ne le concernait pas. Il assumait son travail. Il inventoriait. Sa rémunération dépendait du montant de l'estimation. Quand il proposerait à la vente les biens de la défunte. Le riz n'était qu'un contretemps, sa curiosité ne se situait pas au même niveau que les gendarmes. Gilles essayait de clarifier ses idées. Il partageait l'avis de Sagol, qui pensait que le meurtre se rapportait à la passion de la vieille dame pour les chats. C'était l'hypothèse principale. La seconde supposition concernait son passé de professeur de français et de philosophie. Comment ne pas associer les phrases des couronnes de fleurs à un penseur? Oui, mais lequel et pourquoi? La question les taraudait. Gilles avait relu Pascal ces dernières semaines. Actuellement, Voltaire et Platon étaient en première place sur sa table de chevet. Aucune lumière ne vint de ces philosophes. Sagol, un peu moins littéraire, effectua des recherches à la médiathèque sans plus de succès. Il récita les quelques lignes à son épouse. Elle les avait trouvées très poétiques, mais n'en connaissait pas l'auteur. Il supposait qu'il s'agissait du même poète. Ils se concertèrent longuement. Sagol ferait parvenir dès ce soir le riz au labo scientifique de la gendarmerie, afin de le faire examiner. Il possédait des microscopes électroniques permettant d'analyser des surfaces infinitésimales. Maître Lincourt termina son travail et leur demanda les clés du logement. Sagol réfléchit un instant et lui remit le trousseau. Pour lui, le riz était le dernier élément trouvable chez Mélanie. Ils avaient déjà fouillé chaque pièce de fond en comble. Les garder ne servirait à rien. L'huissier verrouilla la porte et apposa de nouveaux scellés. Tous descendirent les escaliers. Un chat gris leur fila entre les jambes. Il s'agissait du vieux Mistigris qui venait de temps en temps dans la maison de sa défunte bienfaitrice. La nature ayant horreur du vide, une autre voisine prit le relais de Mélanie pour nourrir les animaux. Elle était plus jeune et la troupe l'adopta rapidement. Avant de sortir de la maison, Lincourt précisa à Sagol qu'il ferait parvenir l'acte de mise sous scellé dès le lendemain. Ils prirent congé. L'un partit en direction du square et les autres montèrent vers le château. Le soleil de fin d'été chauffait encore l'atmosphère. Les deux hommes cheminèrent à l'ombre des vieilles demeures. Ils travaillèrent sur le dossier toute la journée du mercredi et firent, comme à leur habitude, un point complet sur l'affaire, reprirent chaque élément et confrontèrent leur point de vue. Ils acquirent la certitude que l'assassin, qui n'avait probablement rien dérobé, connaissait bien Mélanie. Ils étaient certains que la vieille dame avait ouvert la porte à son agresseur et que celui-ci était reparti par le même itinéraire en emportant un jeu de clés et le boîtier d'appel d'urgence. Les deux chats de la baronne attestaient d'une préparation minutieuse du crime et de sa mise en scène. Le choix de ces deux espèces rares signifiait quelque chose, mais quoi? En revanche, le meurtrier était un piètre taxidermiste. La conversation téléphonique, échangée depuis une cabine à Grenoble avec la victime, ne permettait pas aux différents auditeurs de reconnaître l'interlocuteur de la vieille dame. Là aussi, il soupçonnait l'homme d'être lié à l'affaire. Maintenant, il classait les personnages en trois groupes. Celui attaché à l'action caritative de la défunte, dans laquelle il regroupait les gens de la SPA, marginaux et vagabonds. Le second regroupant les amitiés de guerre et de travail. Et enfin, celui qui concernait le voisinage. Le meurtre ayant nécessité du temps et de la logistique, aucun marginal ou vagabond n'aurait pu agir avec autant de précision sans se faire remarquer. Mélanie, partageant des valeurs identiques avec les bénévoles de la SPA, là aussi, ils avaient du mal à envisager un suspect. Ils s'accordaient pour éliminer le meurtrier de ce groupe. Pour les amitiés de guerre, il ne restait que la famille Pietrangeli, impensable. Mélanie, en retraite depuis 22 ans, cela paraissait bien long pour préméditer la mort d'un professeur de français. Il restait le voisinage. Et pourquoi pas un ancien voisin, se dirent les deux hommes. Oui, mais toutes les auditions furent infructueuses. Le renouvellement étant très important parmi les jeunes couples, il fut difficile de retrouver tous les anciens habitants du quartier. Gilles demanda à Sagol s'il observait quelque chose de particulier concernant la date et l'heure du décès. Ce dernier lui répondit qu'il n'oublierait jamais la coïncidence avec son anniversaire de mariage. Oui, sauf que cette année, cela correspondait avec le nouvel an chinois. Coïncidence ou préméditation, Telle est la question. Ce sont les grains de riz qui vous inspirent, cher ami. Pas précisément, mais comme l'histoire est tordue, tout est possible. En effet, j'espère que le labo va nous éclairer, car je commence à rire jaune avec tout cela, et je crains que nous ne laissions le dossier à nos successeurs. Les clichés agrandis des 30 grains de riz leur parvinrent le jeudi matin 11 septembre. Ils buvaient le café lorsqu'on leur apporta l'enveloppe contenant les photos et les grains. Sagol faillit s'étouffer en voyant sur la première feuille un grain de riz agrandi et photographié sur deux faces. Sur l'image de droite, il distinguait un tigre. Sur celle de gauche, la gravure en relief dévoilait trois lettres légèrement penchées qui formaient le mot « peu ». Gilles, à son tour, examina les autres agrandissements. Sur chaque feuillet figuraient deux photos. À droite, un animal, à gauche, un mot gravé dans le riz. 12 animaux différents composaient ce bestiaire. Ils dégagèrent une table et étalèrent les photos. Il y avait un rat associé au mot « toujours », un buffle avec « un ». Le chat figurait deux fois avec deux mots différents, « mais » et « deux ». Le serpent, quant à lui, apparaissait trois fois avec les mots suivants, « né, petit, a ». Gilles approcha le paperboard de la table et, pour plus de compréhension, entreprit de noter tous les animaux avec les mots associés. Sagol lui dictait les associations. Quelques instants plus tard, il regardait perplexe le tableau. Voici ce que Gilles avait marqué. Le chien, la, il, des. Le buffle, un. Le cheval, pas, la. La chèvre, le, qui, main. Le sanglier, rose, promenade, reste. Le singe, but, i, qui. Le serpent, né, petit, a. Le rat, toujours. Le coq, mène, donne, de. Le chat, mais, de. Le tigre, important, peu. Le dragon, ce, parfum, lait. Sagol applaudit son collègue. Il y a longtemps que je n'ai vu d'aussi belles colonnes. Au fait, c'est l'année de la chèvre. Ce sont les bestioles de l'astrologie chinoise. Tout à fait. Nous sommes en plein dans la symbolique asiatique. Je ne crois pas au hasard. Il y a trop de choses concordantes. Quoi, par exemple? Eh bien, l'assassinat le jour du nouvel an chinois. Les grains de riz. Les animaux du zodiaque. Les regards des félins fixés sur la ville de Xian. Je suis d'accord avec vous, mais les mots sont écrits en français et les 32 chats, ce n'est pas une coutume usuelle en mer de Chine. J'en conviens, mais je pense quand même à quelqu'un gravitant autour ou dans la communauté asiatique. Il nous faudrait d'abord décrypter le message. Il nous manque deux indices avec les deux grains que nous n'avons pas trouvés. C'est vrai, si nous avions toutes les pièces, ce rébus serait plus aisé à résoudre. Il suffirait de trouver le bon ordre. Il doit y avoir une logique dans tout ça. Gilles, avez-vous quelques notions d'astrologie chinoise? Un peu. Je sais par exemple qu'une légende dit que Bouddha appela tous les animaux, car il souhaitait procéder à une réorganisation de la Chine, enfin, de l'empire du milieu. Et alors? Je sais que le rat arriva en premier et qu'il n'en vint que 12. Les 12 du zodiaque chinois, absolument. Et je compléterai si vous le voulez bien. Bouddha affecta une année à chacun de ceux qui répondirent à son appel. C'est bien joli, mais quel rapport trouvez-vous avec la fin de Mélanie? Au moment présent, je ne sais pas. Mais puisqu'on parle de légende, il me faut ajouter que chaque homme sur la planète s'identifie au caractère de l'animal correspondant à sa date de naissance. Le symbolisme est fort, et certains signes sont plus vénérés que d'autres, ce qui justifie que certaines années soient plus fécondes et les mariages plus nombreux. Gilles, mon cher ami, vous me dites que le rat arriva en premier. Supposons que nous partions du même postulat concernant l'énigme. Qu'est-ce que cela donnerait? L'assassin a associé le mot « toujours ». À mon avis, ce n'est pas le début de la phrase. Selon vous, l'ordre serait aléatoire. Je ne dis pas cela, mais depuis un moment, je me pose la question concernant l'ordre des animaux, chef. À supposer que vous ayez raison. Il y a des bêtes qui ont un mot, d'autres deux ou trois. Quel ordre me proposez-vous? Depuis quelques années, je commence à vous connaître. Si vous me posez la question, c'est que vous êtes comme moi, dans la panade. Un point pour vous, Gilles. J'arrête de chinoiser. J'apprécie votre humour débridé, chef. Allez, soyons sérieux. Le sujet mérite toute notre attention, et même plus, mon ami. Ils planchèrent toute la journée et quittèrent leur bureau vers 20 heures. Chaque hypothèse faisait l'objet d'âpres discussions, mais rien ne venait dissiper la brume qui entourait le dossier. Chaque animal, avec son mot associé, fut examiné. Gilles se documenta sur les caractéristiques de chacun des 12 signes et sur l'élément associé. L'eau, le bois, le feu, la terre et le métal composaient les 5 éléments. Le rat, le buffle et le sanglier appartenaient à l'eau, élément mystérieux et froid, indiquant l'intériorité. L'imagination, l'amabilité et l'harmonie caractérisaient le bois auquel le tigre, le chat et le dragon étaient liés. Le serpent, le cheval et la chèvre s'associaient au feu. La passion et l'enthousiasme caractérisaient cet élément. Détermination et lucidité pour le métal qui étaient représentés par le singe, le coq et le chien. Gilles composa un nouveau tableau sur le paperboard. Il avait repris le précédent en y ajoutant les éléments et leurs caractéristiques. Chaque animal fut disséqué. Sagol se faisait un reproche. N'ayant pas numéroté les grains de riz lors de la découverte, les enquêteurs ne pouvaient rapprocher l'élément, le mot et le signe avec le chat dont il provenait. Ils commirent une faute de débutant. Une découverte aussi insolite déstabilisa les deux hommes. Ils se partagèrent l'erreur sans fierté. « Chef, je ne crois pas que l'attribution d'un signe chinois à chaque matou nous fera progresser. Je ne pense pas que l'assassin soit aussi machiavélique. J'espère que vous avez raison. Plus je tourne tout cela dans mon esprit, et moins mes neurones sont réactifs. J'ai essayé de faire abstraction des animaux et de ne garder que les mots. Mais je n'arrive pas à composer une phrase sensée. N'oublions pas, Gilles, qu'il nous manque 2 grains avec probablement entre 2 et 6 mots, en s'appuyant sur ce que nous possédons. Exact. À souligner aussi des mots à signification multiple. J'en ai identifié plusieurs. Lesquels, par exemple ? Demanda Sagol. Rose, reste, pas, la, but, donne, et je dois en oublier. Très juste. Je pense au mot rose. S'agit-il de la couleur ou bien de la fleur? Pratiquez-vous les mots croisés, fléchés et autres trucs cérébraux propres aux cruciverbistes. À mes moments perdus, ce qui veut dire pas très souvent. Et vous? Mon épouse adore. Elle est même assez douée, je dois dire. Il faut lui mettre le rébus entre les mains. Si elle trouve, vous lui ferez cadeau d'un recueil de Maître Capello. Merci, Gilles, mais je préfère vous confier le bébé. J'ai une autre idée. Demain, je vais récupérer un logiciel permettant de fabriquer des phrases en lui donnant des mots. Excellente idée. Si la solution peut venir de la technique, pourquoi pas? Pour ce soir, j'en ai assez. Je suis dans le brouillard le plus complet. Sagol s'assombrissait de plus en plus. Il n'arrivait pas à faire des associations entre les mots, les signes et les éléments. Gilles tentait des alliances en tenant compte des différents paramètres. La fatigue eut raison de leur bonne volonté. D'un commun accord, ils décidèrent d'arrêter avant d'attraper la migraine. Le message de l'assassin restait toujours aussi mystérieux. Les deux hommes éteignirent les ordinateurs et les lumières. Ils remettraient le couvert le jour suivant. Vendredi 12 septembre, le café rapidement absorbé, ils reprirent leurs investigations. La nuit fut courte et agitée. Ils ne purent se débarrasser des 30 grains de riz et de la phrase à reconstituer. Sagol, qui en avait vu bien d'autres, se piqua au jeu et se surprit au milieu d'une insomnie. Il marmonnait les mots. Cela réveilla Juliette, son épouse. La cloche sonna 2 heures. Le couple eut un mal fou à recouvrer le sommeil. Gilles fit face au même tourment. Il avait trouvé le remède pour rester éveillé. Il but une bouteille d'eau de Vichy dans la nuit. Mémorisa 10 fois, 20 fois et plus les mots. À 5 heures, en désespoir de cause, il se leva, prit sa douche et absorba son petit déjeuner. Il n'était pas encore 7 heures lorsque les deux collègues se retrouvèrent au bureau. Gilles chercha sur le net le logiciel qui les aiderait à mettre les mots dans le bon ordre. Sagol relisait ses notes. Il s'apprêtait à faire une requête auprès du fichier central en communiquant tous les indices dont il disposait. Un rapprochement serait effectué avec toutes les affaires, élucidées ou non. Le système procédait par élimination. Il prenait d'abord tous les éléments et au fur et à mesure occultait certaines données. La puissance de calcul et de recherche des ordinateurs faisait le reste. La phase de saisie des données s'avérait fastidieuse. Il s'agissait d'être le plus succinct possible tout en étant précis. Là résidait la difficulté de l'exercice. Le carillon du château s'apprêtait à sonner 9 heures. Le soleil brillait déjà au-dessus des toits de la vieille ville. Ils étaient maintenant parfaitement éveillés et l'esprit à l'affût. Gilles, avec le logiciel Motus, s'activait. De nombreuses formulations, toutes plus incohérentes les unes que les autres, s'affichaient au bas de l'écran. Décidément, même l'ordinateur ne voulait pas donner la bonne solution. Un message s'afficha plusieurs fois. Gilles le lut à haute voix. Phrase incorrecte. Chef, je crois que le message est délivré en plusieurs phrases. Hypothèse intéressante, Gilles. Pouvez-vous proposer un nombre précis à votre système de recherche? Absolument. Ce qui me chagrine, ce sont les mots qui manquent. Peut-être pourriez-vous lui demander de proposer un certain nombre de mots. Connaissez-vous le nom du logiciel? Vous allez me le dire, Gilles. Motus. Alors je vais essayer en espérant qu'il ne soit pas bouche cousue. Je pense que les deux signes qui manquent sont le rat et le buffle. Et le nombre de mots se situe entre 2 et 5. Je vous suis. En effet, ça paraît plausible. Sagol termina la saisie des données concernant les éléments de l'affaire Pralon. D'ici une dizaine de minutes, il recevrait une réponse. Ce logiciel était d'une aide précieuse de nos jours. L'informatique permettait de réduire l'avance des délinquants par rapport aux enquêteurs. Fini le temps où les gendarmes poursuivaient les voleurs avec leurs bicyclettes. Aujourd'hui, ils disposaient des outils les plus modernes. Alors Gilles, je ne vous entends plus. Auriez-vous quelques difficultés insurmontables? Non, je dirais le contraire. Motus me fait des propositions. Il y a probablement 2 phrases. Ah oui, je suis impatient. Que me proposez-vous? C'est trop tôt. Je pense qu'avant le 10e coup des cloches du château, je serai en mesure de vous soumettre quelque chose. Et vous, chef? J'attends le retour d'une minute à l'autre. Le serveur principal a validé ma demande. Alors il ne reste plus qu'à croiser les doigts ou prier au choix. 9h30 venait de sonner. Gilles prenait connaissance des dernières propositions. 2 phrases clignotaient sur l'écran. Vous ne devinerez pas ce que me propose ce cher Motus. Je vous le donne en 1000. Je vous écoute, mon cher. Si je vous récite la première, je suis certain que vous me donnerez la seconde. Allons-y. Voilà ce qu'il affiche. Il reste toujours un peu de parfum à la main qui donne des roses. Ne me dites pas que la 2e phrase, c'est « Ce n'est pas le but de la promenade qui est important, mais les petits pas qui y mènent. » Quelle perspicacité! Je vous jure que je n'ai pas soufflé la solution. Quels sont les mots que nous n'avons pas trouvés, Gilles? Il y en aurait 3. « Et »,« qui », »,« i ». Gravés probablement avec un buffle et un rat. Oui, nous pouvons le supposer. Donc, cela confirme ce que nous pensions. L'assassin a fait envoyer des fleurs aux obsèques de Mélanie, puisqu'il y avait les mêmes épitaphes. Tout à fait d'accord avec vous. Reste à comprendre ce qu'il veut dire, et ce n'est pas encore gagné. N'oublions pas que Madame Pralon pratiquait la philosophie. Nous devons chercher aussi dans cette voie. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, chef, je pense avoir trouvé l'auteur célèbre de ces 2 pensées. Il s'agit de Confucius. C'est vrai que ça ressemble bien à des maximes chinoises. Comment avez-vous fait? Très simple. Une requête sur Internet et nous voilà fixés. Décidément, nous ne sortirons pas de l'Asie. Je résume. Les chats regardaient tous en direction de la Chine. Xian, pour être plus précis. La gravure des grains de riz est une spécialité chinoise. Les animaux gravés sont ceux de l'astrologie chinoise, et maintenant les pensées de Confucius. Je vais vous faire une confidence, c'est la première fois que j'enquête avec la Chine pour toile de fond. Confidence pour confidence, Gilles, moi aussi. Nous avançons en terrain vierge. Sagol jeta un coup d'œil sur l'écran de son ordinateur. Une icône clignotait. C'était le signal attendu. La réponse du fichier central était arrivée. Il ouvrit le programme qui se téléchargea en quelques secondes. Le système procéda par pertinence. Il proposa de nombreuses réponses, dont 6 avec un taux de vraisemblance élevé. Gilles se pencha à son tour sur le moniteur. Les propositions s'affichèrent. Il y eut d'abord le cas d'un chat trouvé mort auprès de son maître assassiné. L'homme et l'animal, étranglés, furent disposés selon un rituel macabre, des dessins de squelettes et de têtes de mort gravés sur le plancher. Un homme évadé d'un asile psychiatrique fut confondu, notamment grâce aux empreintes. Aucun mobile autre que la folie ne justifiait un tel acte. La victime, un homme veuf, âgé de 71 ans, vivait une retraite paisible d'ex-employé de banque. Au dire des voisins et relations, il possédait un tempérament serviable et chaleureux. On ne lui connaissait aucun vice, un homme tranquille en somme. Sous les verrous, à l'heure du crime, cet individu ne pouvait être le meurtrier de Mélanie. Fait troublant, le déséquilibré était un réfugié vietnamien de 38 ans. À Compiègne, deux lesbiennes, âgées d'une trentaine d'années, furent retrouvées gisant dans leur sang. Elles ne durent leur salut qu'à un voisin qui, étant en panne de téléphone, vint s'assurer que la défaillance ne provenait pas de son installation, mais de l'opérateur. Il entendit des râles entrecoupés par les hurlements de leur Yorkshire. Il actionna la poignée de la porte qui s'ouvrit. Dans le couloir, une jeune femme, presque entièrement dévêtue, gisait. C'est elle qui râlait. Il décrocha leur combiné, qui par chance fonctionnait. La police et le SAMU intervinrent moins de 5 minutes après l'appel. À ce jour, elles avaient repris une vie presque normale. Sur chaque porte, à l'intérieur de la maison, des oiseaux naturalisés avaient été cloués. Elles ne purent donner un signalement de leur agresseur. Il portait une cagoule noire et des gants de cuir, et ne prononça pas un seul mot. Les victimes firent l'objet de sévices sexuels après avoir été assommés. Leurs poils pubiens furent brûlés avec une cigarette. Les policiers relevèrent des traces de cendres sur le bas-ventre d'une d'entre elles. Le fichier signalait qu'une agression similaire s'était produite un mois plus tard en Belgique, dans la ville de Namur, avec un mode opératoire identique. Sauf que la victime, hétérosexuelle, décéda lors de son transfert à l'hôpital, sans pouvoir aider les enquêteurs. Elle venait d'avoir 27 ans. Les deux hommes eurent la nausée à la lecture des faits. Ils pensaient que cela n'avait rien à voir avec leur affaire. C'étaient des femmes jeunes et le mobile sexuel devait être mis en avant. Il n'y avait pas de chat, mais des oiseaux. Dans le cas de la défunte, la mort avait été provoquée par étouffement. Dans les autres cas, les agresseurs avaient utilisé l'arme blanche. Ils passèrent au dossier suivant. À Amboise, sur les bords de la Loire, un meurtre ignoble s'était produit. L'assassin avait disposé des fleurs partout dans l'appartement de sa victime étranglée. Sa proie, une femme seule, venait de fêter son 45e anniversaire. Le meurtrier, un ancien amant éconduit, fit confectionner des couronnes mortuaires avec des fleurs blanches uniquement. La police l'appréhenda à la sortie du cimetière. Son procès était prévu aux assises dans quelques semaines. Sagol lut à haute voix l'histoire d'un chasseur exécuté avec sa propre arme. Son visage, dissimulé sous ses trophées empaillés, était méconnaissable. Le meurtrier, confondu, préféra mettre fin à ses jours que de se rendre aux autorités. L'affaire se déroula quelques mois avant la fin tragique de la dame au chat. À Blayouville, petit village du bocage normand, l'absence d'une nonagénaire à la kermesse paroissiale intrigua les bonnes dames de la paroisse. Deux d'entre elles furent dépêchées à son domicile. N'obtenant aucune réponse, elles firent appel à M. le maire qui cassa un carreau pour pouvoir pénétrer à l'intérieur. Il découvrit la vieille dame immobile dans son fauteuil. Il y avait des bougies consumées partout dans la maison. De tous côtés, des fleurs disposées dans des boîtes de conserve exhalaient une odeur nauséabonde. Elle dormait d'un sommeil profond, celui dont on ne se réveille pas. L'enquête conclut à une mort naturelle. Le décès fut annoncé après la kermesse. Dans le pays, la tradition primait sur toute autre considération. Sagol et son adjoint savaient que l'interrogation du fichier central n'apporterait pas la réponse à la question « Qui est le meurtrier ?». L'expérience les incitait à ne rien négliger. Parfois, un indice anodin, une information fournie et un gain de temps précieux se réalisaient. L'informatique se révélait être un outil indispensable. Aujourd'hui encore, cela se vérifiait. Ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Penchés sur l'écran, une autre indication les interpella. De nombreux chats disparaissaient dans le Bordelais. Pourquoi là plutôt qu'ailleurs? La dernière des six propositions prioritaires du fichier central fut la plus convaincante.